Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La religion chrétienne, telle qu'elle existait à l'époque du Christ et des apôtres, a été modifiée à travers les siècles par insertion de nombreux mythes et coutumes en provenance du paganisme. Une étiquette chrétienne fut donnée à ces coutumes et de nos jours, sans s'en rendre compte, beaucoup de chrétiens célèbrent ce que le Christ et ses apôtres n'ont jamais observé ni enseigné. La plupart des religieux n'encouragent-ils pas l'observance du repos du dimanche, qui est pourtant le jour dédié au soleil, au dieu Baal, alors que le quatrième commandement ordonne d'observer le repos du septième jour de la semaine. Le septième jour est le samedi, non le dimanche, qui lui est le premier jour de la semaine. Depuis quelques années, des changements ont été apportés au calendrier par l'Organisation internationale de standardisation pour faciliter les échanges internationaux. Mais Dieu n'a rien changé à ses commandements. Samedi demeure le seul jour du repos hebdomadaire fixé par Dieu. Si dimanche est le jour du Seigneur, il s'agit du Seigneur Baal, le Dieu Soleil, d'ailleurs en anglais, en néerlandais, en allemand, ce jour est appelé Sunday, Sonntag, Sonntag. Certains observent le dimanche car c'est en ce jour, disent-ils, que le Christ aurait été ressuscité. Si dimanche est le septième jour de la semaine, alors lundi en est le premier jour et les Pâques devraient être observées ce jour-là. Et si vous voulez recevoir notre étude sur ce sujet, il vous suffit de la demander, elle vous sera envoyée gratuitement. Le dimanche des Pâques n'a plus grand-chose à voir avec la Pâque que le Christ prit avec ses disciples avant de mourir. Les Pâques se traduisent par « Easter » en anglais et par « Ostern » en allemand. L'origine de ce mot est connectée avec l'Est, avec le lever du soleil. Observer les Pâques, c'est adorer le soleil. Relisons ce que le prophète Ézéchiel décrit comme étant des abominations. Ce texte est repris de la Bible en français courant. Il me transporta vers la porte nord de son temple. Des femmes y étaient assises et pleuraient sur la mort de Tammuz. Il me demanda, « Vois-tu bien cela, Ézéchiel ? Tu vas voir des pratiques plus abominables encore. » Il me transporta alors vers la cour intérieure du temple. À l'entrée du sanctuaire, entre le vestibule et l'autel, il y avait environ 25 hommes. Ils tournaient le dos au sanctuaire et, face à l'Orient, ils se prosternaient pour adorer le soleil. La coutume de se tourner vers l'Orient, vers le côté qui voit le soleil se lever, a été incorporée dans le christianisme, comme le confirme la nouvelle encyclopédie Théo. Je cite, « Une règle générale appliquée de la construction des premières églises a été d'orienter vers l'Orient leur abside, c'est-à-dire la tête de la croix que forme l'église. Ainsi, le peuple des célébrations se trouvait-il symboliquement tourné vers le soleil levant. On remarquera que c'est en effet l'orientation de beaucoup d'églises anciennes et de grandes cathédrales. Le développement urbain n'a pas permis de continuer à respecter cette règle. » Fin de citation. Pourquoi les femmes qu'Ézéchiel décrit pleuraient-elles Tammuz, nom donné à Osiris ou Nemroth? Parce qu'il était le Messie païen qui fut mis à mort et, soi-disant, ressuscité un dimanche. Les païens observaient un carême, ils pleuraient le vendredi et se réjouissaient le dimanche matin, le dimanche des Pâques, d'Easter, d'Ostern. Pour l'Éternel, c'est une abomination. Alexandre Slop écrit « Que veut dire le mot de Easter lui-même ? Ce n'est pas un nom chrétien. Il porte en lui-même son origine chaldéenne. Pâques, en anglais Easter, n'est pas autre chose qu'Astarté, l'un des titres de Beltis, la reine des cieux, dont le nom tel que le prononçait autrefois les Ninivites, est évidemment identique à celui qui est usité aujourd'hui en Angleterre. Son nom, tel que Layart l'a retrouvé sur les monuments assyriens, est Ishtar. Le culte de Bel et d'Ashtarté fut introduit de très bonne heure en Grande-Bretagne avec les druides, prêtres des bocages. Les Pâques, précédées du carême, sont d'origine païenne. Cette fête veut commémorer la résurrection du Christ, alors que la Pâque, qui a été instituée par l'Éternel Dieu, préfigurait la mort de notre Sauveur, l'agneau de Dieu et non sa résurrection. C'est cette Pâque que le Christ a observée avec ses disciples avant son arrestation. C'est au cours de cette dernière Pâque qu'il a changé les symboles, puisque le sacrifice de l'agneau de l'Ancien Testament allait être concrétisé par le sacrifice du Fils de Dieu. Voilà pourquoi Paul écrit « Christ, notre Pâque, a été immolé ». Remarquez bien qu'il est question de la Pâque, du mot « Pâque » au singulier et non pas des Pâques au pluriel, qui ne tire pas son origine de la Bible, mais du paganisme. Le dimanche des Pâques, pour amuser les enfants, on cache des œufs dans le jardin. D'où vient cette coutume? Aux pages 49 et 50 du livre « La cuisine russe », on trouve « La tradition de l'œuf décoré antérieure au christianisme atteignit certainement son apogée en Russie au XIXe siècle. L'archéologie a prouvé que l'on fabriquait déjà des œufs décorés en Ukraine des milliers d'années avant l'ère chrétienne. De nombreuses civilisations anciennes considéraient les œufs comme étant sacrés et les utilisaient dans leurs cérémonies religieuses comme c'était le cas en Égypte et en Orient. Les œufs faisaient également partie des rites secrets des mystères de l'ancienne religion babylonienne. Alexandre Lope écrit « Autrefois, les œufs étaient en usage dans les rites religieux des Égyptiens et des Grecs, et on les suspendait dans les temples pour des cérémonies mystiques. Voici l'histoire qu'en fait l'Égyptien Hyginus. On dit qu'un œuf de dimension extraordinaire tomba du ciel dans l'Euphrate. Les poissons le poussèrent au rivage. Là, les colombes vinrent se fixer dessus, le couvèrent, et Vénus en sortit bientôt. Elle fut appelée la déesse syrienne, c'est-à-dire Astarté. De là vint l'emploi de l'œuf comme symbole d'Astarté ou Easter. La Bible déclare « Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent deux veaux de fonte. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. » Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. De nos jours, on continue à dresser des statues d'Astarté, reine du ciel, une représentation de Sémiramis. On en fait autant pour Baal et pour l'armée des cieux devant lesquels on prie, on se prosterne, ce qui est contraire au second commandement. Gérald Simons écrit « Les zélés propagateurs de la foi s'aperçurent vite que la destruction des autels païens ne servait pas à grand-chose. Les anciennes croyances et la religion nouvelle avaient plutôt tendance à coexister et les fidèles avaient recours à une forme ou à une autre, tantôt alternativement, tantôt simultanément. Sous le pontificat de Grégoire le Grand, l'Église adopta comme politique officielle cet accommodement sans formalisme. Il en résulta une forme de religion populaire, presque folklorique, mélange dynamique de survivance païenne, nuancé de christianisme et de pratiques chrétiennes adaptées aux coutumes barbares. Cette religion folklorique se centrait sur la vénération des saints, coutume qui remontait au temps des premiers chrétiens de Rome. Elle s'appuyait sur la crédulité des croyants, qui demeurait attachée à des formes de vénération traditionnelles, à la fois personnalisées et intimes. La fertile imagination des gens du Moyen-Âge métamorphosait les croyances en réalité. On en vint à croire que les prières adressées aux saints étaient particulièrement efficaces. Le nombre des saints proliféra et les érudits modernes ont rassemblé des récits concernant plus de 25 000 saints différents. Ce culte des saints revêtit une ferveur et une intensité extrême sous la forme de la vénération des reliques saintes. Jusqu'à la fin du Ve siècle, l'Église s'était vigoureusement opposée à cette pratique. Saint Augustin, l'évêque d'Hippone, et il ne s'agissait pas d'un personnage secondaire de l'Église, s'était écrié « Ne traitons pas les saints à l'égalité avec Dieu, nous ne voulons pas imiter ces païens qui vénèrent leur mort ». La fusion des éléments chrétiens, romains et germaniques, tendant à la création d'une religion populaire et à l'institution du droit, formait un premier courant qui portait vers l'unité et vers la création d'une culture de base appuyée sur les coutumes. Sous l'inspiration divine, le prophète Jérémie déclare « Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux. » Adrian Bailey écrit « De l'époque des moissons jusqu'à Noël, et du début du carême jusqu'à Pâques, les rites religieux et les fêtes dans les îles britanniques suivent le sillage des rites oubliés depuis très longtemps qui appartenaient aux Celtes, aux Germains, aux Romains et même à des peuples encore plus anciens. Inextricablement liés à ces coutumes sont les plats qui marquent les différentes fêtes de l'année. Au XIXe siècle encore, la veille du jour des morts, on vendait le gâteau des esprits et des verres de vin pour l'âme des trépassés. On pensait que ceux-ci revenaient dans leur ancienne demeure au cours de cette nuit-là. Les gâteaux que nous confectionnons pour une fête ont tous des décorations d'origine religieuse ou mythologique, ce qui montre de façon flagrante nos liens avec le paganisme. L'exemple le plus frappant est bien sûr le hot cross bun que l'on mange pendant le carême. La croix que l'on trace sur le dessus de ce petit pain au lait remonte à des temps reculés bien antérieurs à l'ère chrétienne. Les Grecs et les Romains avaient des gâteaux de fête qui portaient le même symbole. Le symbole du soleil et du feu apparaissait encore plus distinctement sur d'autres gâteaux. L'auteur explique que le gâteau de Pâques de Shrewsbury, décoré de 12 boules de pâte d'amande, existait déjà chez les Romains et était servi le jour de la fête dédiée à Junon, protectrice du foyer. Je pourrais parler de la Toussaint et de beaucoup d'autres fêtes que vous supposez chrétiennes, alors qu'elles sont tirées du paganisme. Certains auditeurs m'écrivent en disant « Quelle importance cela a-t-il, puisqu'en fin de compte, nous finissons tous par adorer le même Dieu ?» D'autres pensent « Quel mal y a-t-il à observer une fête d'origine païenne si on l'observe en l'honneur de Dieu ou du Christ ?» Mon opinion sur le sujet importe peu. Mais qu'en pense Dieu ? La Bible déclare que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. L'ancien Israël renia Dieu, ce Dieu qui l'avait choisi comme nation afin d'être un exemple pour les autres nations. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Dieu avait ordonné des fêtes à perpétuité. Ces fêtes ont été observées par le Christ, par les 12 apôtres et aussi par Paul qui a déclaré « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Malheureusement, ces fêtes établies par Dieu sont rejetées par des millions de gens qui s'estiment disciples du Christ, mais qui préfèrent observer des fêtes païennes pour lesquelles Dieu déclare « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées ». Paul écrit encore « Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Pour conclure, je voudrais vous rappeler l'avertissement du Christ. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »